atteint en réalité que laisser la main libre à toute une série d'instances qui contrôlent, et ce n'est pas que le problème des multinationales et transnationales, quand on vous dit déréglage, le monde de la communication. Bah, le monde de la communication est déréglementé dans un sens parce qu'on encourage ITT, d'autres sociétés, Electronica, les télécommunications italiennes, Télécom France, etc., à aller dans le privé, mais le problème n'est pas là. C'est qu'après vous avez un quasi-vide juridique où les normes internationales qui doivent être établies de régulation, qui faisaient avant par l'Union internationale des télécommunications, par l'Union postale, par des organisations de spécialistes, par des comités de gens compétents, ou par des ministères, maintenant se font ad hoc par des accords entre les trois sociétés, et c'est ce qu'on appelle la mondialisation de l'économie, des gens comme Ricardo Petrella de la CE a très bien écrit là-dessus plus de 2 ou 3 articles dans le monde diplomatique, dans Futurib et ailleurs. Ce n'est plus un problème de libéralisme, de capitalisme, c'est un problème de savoir, dans un système de prise de décision, et si je veux une démocratie, quel est mon degré de participation comme contribuable et quel est mon rôle dans les décisions qui sont prises. J'étais ravi en venant là de lire, par exemple, puisque pour une fois la Suisse va faire un référendum si on va acheter des F-18 ou pas. Je trouve ça merveilleux, parce que quand on a tenu un congrès sur l'avenir, des institutions politiques à Stockholm, il y a presque 10 ans, on voyait très bien qu'on va passer vers une démocratie directe parce que les moyens de communication, ces révolutions font que vous pouvez à 5% près, par un sondage bien fait, savoir ce que la population pense de Genève si elle veut que les ponts soient repeints en jaune, en vert ou en orange. C'est comme ça que le marketing marche, à une marge d'erreur de 4-5% qui se raffine chaque fois. Ou alors vous allez au référendum, parce que ceux qui prennent les décisions, les contraintes qu'il y avait avant, comme aux États-Unis, pourquoi le président de la République devait attendre entre son élection et sa prise de pouvoir quelque chose 2 mois et quelques jours, pour une raison tout à fait élémentaire, c'est qu'on a pris le point le plus loin de Washington aux États-Unis et on a calculé le temps où, si le président est élu du Washington State, combien de jours ça lui demanderait pour arriver en calèche. Et bon, et c'est encore là, c'est-à-dire, et vous avez un président qui est élu la première semaine de novembre, et vous avez tout le mois de novembre, tout le mois de décembre, et il ne prend ses fonctions qu'en janvier. Et vous avez un hiatus, une période incroyable pour la plus grande puissance du monde. Donc, je veux dire, il y a certains concepts, certaines institutions qui sont à être mises en cause. Le concept de droit de l'homme, c'est très beau, il est déjà défini d'abord par la déclaration française, contrairement à ce qu'on dit, c'est d'abord le premier étape est celle de Bill of Rights de l'Angleterre, il faut respecter les droits d'auteur. Ce n'est que quelques années après que la France a pris le concept, il y a eu aussi les développements aux États-Unis, et même là ils étaient différents, autant le système anglo-saxon des droits de l'homme met en avance le civil rights, c'est-à-dire le droit de société, le droit du travailleur, le droit de catégorie de gens, donc raisonner en termes socialement structurés, autant, bon, c'est une spécificité de la Révolution française où les droits de l'homme étaient au niveau de l'individu. Et le niveau scandinave est entre les trois. Donc, avec l'évolution du monde, on ne peut pas continuer à croire qu'on va gérer le monde avec des concepts qui remontent à 1789 ou même qui remontent à 1948 lors de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'abord parce que quand cette déclaration était faite, la représentation des pays des tiers-mondes et de leur système de valeurs était non existante, ce qui fait que la Déclaration universelle des droits de l'homme est culturellement une déclaration des principes et des normes judéo-chrétiens, qui sont la minorité dans le monde. On ne trouve pas certains concepts bouddhistes, on ne traite pas certains autres concepts, elle n'est pas universelle dans la mesure où elle ne reflète pas la constitution et la diversité du monde lui-même. Chaque société a ses traditions. Et alors là, on utilise le mot universel et on vous l'impose. Et si vous ne l'acceptez pas, c'est-à-dire si vous n'acceptez pas la manière dont je pense, vous n'êtes pas universel. On s'approprie l'universel par un ethnocentrisme caractérisé qui est à la source de ce que j'appelais la crise nord-sud, qui est un problème de communication culturelle. Et je vais presque dire, je dis que la remise en cause de toutes ces institutions intervient à un moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous voulez, ce dilemme est là, et je parle toujours du Japon. Vous savez, j'ai fait ma thèse de doctorat à presque 40 ans, 30 ans à l'avance, School of Economics, j'avais pris le monde arabe, le monde musulman, et à ce moment-là, j'étais vraiment inquiet par une période dans l'histoire du monde arabe qu'on appelait la période levantinisme. Alors, levantinisme, le levantinisme. Alors, le levantinisme, c'était, vous savez, la révolution, disons, intellectuelle, littéraire. Le monde arabe a commencé avec la reprise de la langue arabe au Liban à travers l'imprimerie. Bon, ben, c'est une chose très bien. C'était surtout des missions qui étaient là, qui ont utilisé cette imprimerie, qui a été d'un très grand bénéfice à deux jours, et personne ne la conteste, et heureusement qu'elle a eu lieu pour l'épanouissement et la propagation du livre ou de ce qui est écrit. Mais à ce moment-là, se posait déjà une forme de crise d'identité, et vous avez des gens dans le monde qui disent, bon, qu'est-ce que je vais faire avec toute cette culture avant, le monde est en train de se transformer, bon, il venait d'avoir la dictature, moi, toute cette impression et tout cela, moi, je me retrouve beaucoup plus chez l'autre. Vous avez des choses qu'on oublie, parce qu'on occulte l'histoire, vous avez des gens comme Tahar Hussein, le grand écrivain arabe, etc., mais qui est allé faire sa thèse de doctorat à la Sorbonne, il était aveugle, il a eu une épouse très charmante qui est rarement dédiée plus que quelqu'un d'autre, et puis sa thèse de doctorat était Mustaqbal Thaqafa al-Misriya, l'avenir de la culture égyptienne. Et à ce moment-là, carrément, la thèse est là, elle est publiée, il dit, vous savez, nous en Égypte, on n'a rien à faire avec la culture arabe, musulmane, nous on remonte au pharaon, on fait enfin, ce que le chat à un moment a essayé à faire, à faire revivre aux Zoroastriens, et puis d'ailleurs, nous, notre logique, c'est la référence grecque, latine, etc., donc, nous n'avons rien à faire avec ce monde, nous allons lâcher, nous rentrons dans le monde occidental. Ben, ce style de pensée, on l'a appelé dans le Nord, à ce moment-là, l'école levantine, c'est-à-dire des gens qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas tout à fait bien dans leur peau, il y a une forme d'aliénation culturelle, ils sont ni Nord ni Sud, il y a une forme de bâtardise, et il y a une certaine insécurité, ou alors on se rattrape sur quelque chose. Alors on va vers la francophonie, on va vers M. Kouchner comme sauveur du monde, on va vers le droit d'ingérence, on va vers... vers ce paternalisme vis-à-vis du tiers-monde. Et là, ce phénomène-là avait commencé. Et donc, je me suis mis à suivre le Japon. Et je suis dit le Japon très jeune. Et une des choses dont je m'honore le plus, qui n'est pas dans mes CV, c'est que quand l'empereur du Japon, à 75 ans de règne, a donné cette grande décoration, le grand cordon de la croix du Levant, il les a donnés à 7 Japonais, à 7 non-Japonais, dont j'étais un, et j'étais le seul du tiers-monde, et la moyenne d'âge était de 77 ans. Mais bref, parce que le Japon m'intéressait, parce que je voulais, dans ma thèse, dès ma jeunesse, prouver que tout homme a une capacité créatrice et innovatrice. C'est là où on croit ou on ne croit pas, dans l'égalité véritable. Et qu'il n'y a pas de système, qu'il n'y a pas de langage, qu'il n'y a pas de méthode d'expression, qu'il n'y a pas de raisonnement, qu'il n'y a pas de logique, qui n'ait pas un sens, et qui ne soit pas viable, opérationnel, à condition qu'on la fasse évoluer, prenant conscience des objectifs qu'on veut atteindre, des moyens dont on dispose, et de trouver une manière conceptuelle de la plager dans une stratégie, dans un système socioculturel. Bon, et j'ai suivi le Japon. J'ai organisé le centenaire de la révolution Meiji en 1968, avec une réunion extraordinaire entre les gens du Nord et du Sud. Et j'ai découvert là, à ce moment-là, que les Japonais avaient un jeu extraordinaire qu'ils jouaient dans les salons intellectuels à partir du début du siècle. Ce qu'ils appellent le Nihon Run. Alors, le Nihon veut dire japonais, et Run, c'est analyse. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se réunissaient dans les salons. Et puis, chacun jouait un rôle. Alors, il dit, toi, tu vas me dire, tu vas t'imaginer que tu es français. Alors, comment le français voit le Japon? Qu'est-ce qu'il en pense? Alors le gars se met, il étudie, il a été en France, ah, vous savez, pour les Japonais, pour les Français, on est tous ceci, cela, on marche comme ça, nos femmes ont des pieds tout petits, en fait, c'est le Japon. Toi, ton tour, tu étais en Angleterre, tu as fait tes études à Oxford. Alors, décris-moi, toi, dans la faute de l'anglais, comment tu vois les Japonais? Et ainsi de suite, c'est-à-dire, c'est des gens qui étaient conscients de leur identité, mais aller plus loin, et essayer de voir dans le miroir comment les autres le voyaient, pour que ça ait un autre rétro-effet et pour qu'ils tiennent compte de comment l'autre les voit. Et les Japonais ont laissé marcher l'Occident à fond, disant c'est des gens avec leur caméra, ils vont une copie, ils viennent, ils vont une montre suisse et ils font la même chose plus cher parce que leur main d'œuvre n'est pas cela et parce qu'ils peuvent travailler 20 heures et en Suisse, nous on a une législation d'un progrès. C'est un bouffon, parce qu'il n'y a pas une chose que les Japonais ont fait, qui n'est pas une valeur ajoutée et qui ne démarre pas de leur système de valeur. Je me rappelle après cette conférence 68, si revenait au monde 71-72, il y a eu tout un débat des gens qui m'attaquaient parce qu'ils avaient dit que les Japonais ne copiaient pas, ça a fait fureur. Bref. Et maintenant je finis là-dessus. Et bon, j'espère que le débat va apporter un tas d'autres choses que j'avais là que je parle. Le Japon, le NIRA. Le NIRA, c'est le Nippon Institute for Research Advancement, c'est-à-dire c'est l'Institut japonais pour l'avancement de la recherche, a mené pendant 6 ans, entre 82 et 88 une étude sur Japan's agenda for the 90s. Alors, c'était de savoir quel était l'ordre du jour pour le Japon, les grands problèmes, une étude entièrement consacrée aux sciences et technologies de pointe, qui associait, je ne sais pas, toutes les grandes firmes, tout le monde. Bon, il y a eu, je crois, une vingtaine de personnes en dehors du Japon qui ont été associées. J'ai eu l'honneur, là aussi, d'en faire partie au niveau, surtout, des aspects des technologies avancées, notamment en informatique, robotique, système d'experts qui me passionnent dans les implications socioculturelles. Et bref, cette étude est sortie en 88. Elle est comme ça, il n'y a que tableau. C'est des matrices. Les nouveaux matériaux, bon, si ceci se passe, il y a le scénario A, on arrivera peut-être à 40% du marché, mais à condition qu'on ait un breakthrough et qu'au-delà de la céramique, on trouve des produits qui résistent à 3500 degrés au lieu de 2800 km. Une analyse purement scientifique avec les possibilités des scénarios, ce que ça impliquait comme investissement, et le contexte international, et où se trouvaient les technologies en Union soviétique, en Allemagne, bon, en France. Et ce rapport est comme ça. Et puis il y a trois pages d'introduction de ce rapport, qui est totalement consacré aux technologies de pointe et pour le Japon aux années 90. Et le directeur, Shimo Kobe, le président de cet institut, un homme qui doit faire presque 80 ans aujourd'hui, qu'un chimiste, biologiste, écrit une petite introduction. Et dans cette petite introduction, toute minime, qui passe inaperçue, et qui était rédigée, alors prenez bien la date, en 1988. Je suis très sensible aux droits d'auteur. Dès qu'il y a un conseil, je dis bon, on le retrace à quand. Alors voilà ce qu'écrivait ce rapport de recherche sur le programme japonais pour les années 80, et voilà l'introduction. Et je cite mot à mot, bon, c'est ma propre traduction de l'anglais, c'est dans un article que j'avais publié. Voilà ce que disait le japonais. En 88, j'insiste, je m'excuse sur, je ne fais pas de la commercialisation, mais c'est très important ce que je dis, 88. Et voilà ce que disait le japonais, il faut désormais voir le monde différemment. Mettre de côté le vieux préjugé d'un ordre mondial stratifié sous l'empire américain. Chaque mot-là est japonais. Ce n'est ni du Samirami, ni de je ne sais pas quoi. Le nouvel ordre mondial. Alors voilà l'expression. Le nouvel ordre mondial. Jusque-là, on avait parlé du nouvel ordre économique international, du nouvel ordre de la communication, du nouvel ordre humanitaire. Mais à ma connaissance, la première fois, l'expression nouvel ordre mondial tout court est utilisée chez les Japonais. Le nouvel ordre mondial qu'on pourrait appeler l'âge de la diversité des civilisations, là ce concept de diversité à nouveau, repose sur la coexistence de multiples civilisations. Et ils vont plus loin, et c'est là la phrase qui compte pour moi, si l'occidentalisation a fait progresser le monde sur le plan matériel, il n'y a pas toutes, certains avantages, l'avion, certains produits, les vaccins, on a pu éliminer la variole, mais ils vous disent si, ils reconnaissent. Si l'occidentalisation a fait progresser le monde sur le plan matériel, et voilà la phrase, la modernisation du Japon témoigne de la distinction entre modernisation et occidentalisation. C'est-à-dire cette équation qui m'a toujours intrigué chez un tas de gens aminiculturels. Et quand on en a, et c'est là-dessus que je conclurai pourquoi j'ai appelé la période postcoloniale ce qu'elle signifie pour moi. Là, elle a cette preuve. Je vous donne un dernier exemple. Bon, pour apprécier le monde à sa juste valeur, il est donc nécessaire d'examiner la structure du monde interne du monde multipolaire. Le monde cherche peut-être des façons de développer des civilisations pluralistes dans un monde multipolaire. Bah, le nouvel ordre mondial à la bouche n'est rien d'autre que le contraire. N'oubliez jamais, les gens m'ont dit, tu as beaucoup écrit sur la guerre du Golfe. J'ai écrit sur la guerre du Golfe parce que pour moi, ce n'était ni l'Irak, ni le Koweït, ni le monde arabe, ni le monde musulman. Le premier article que j'écrivais en septembre disait le confrontation nord-sud, début de l'ère postcoloniale. Et deux semaines plus tard, à Radio France Internationale, dans une émission, j'ai dit il y aura une guerre. Et pour les raisons suivantes, il n'y a pas que le pétrole et tout ça. C'est-à-dire que c'était un moment de rupture, de changement. Il fallait mettre la main sur certaines choses. Et les Japonais en étaient déjà conscients de la manière dont ils parlent. Et Bush a dit une phrase que les gens oublient la première. Il n'a parlé ni de pétrole, ni de démocratie, ni de défendre le Koweït, ni de droits de l'homme. Il a dit, it is a question of our lifestyle. Je ne sais pas si vous rappelez ça. Lifestyle. Alors, lifestyle, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est tous les systèmes de valeurs. C'est-à-dire, regarde, nous, on a pris des habitudes. On a notre manière de vivre. On a un déficit de 3 000 milliards de dollars. Nous permettons le luxe chaque année d'avoir un déficit budgétaire qui est entre 400 et 500 milliards de dollars. Ça fait rien, plus on a le déficit, plus le dollar monte parce qu'on est sûr d'avoir l'argent des Japonais, des Allemands, des Émirats arabes, des pétrodollars. Et donc je continue, je fais la loi. Je sais qu'économiquement je ne suis plus une puissance. Je sais que scientifiquement je suis plus une puissance. Je sais que technologiquement je suis une plus une puissance. Vous donnez l'exemple pourquoi ils sont plus une puissance. Cet ordinateur, vous voyez, Toshiba vient de sortir, il est sur le marché, un ordinateur avec un écran plat, parfaitement valable, actif et pas passif, en couleur avec un million de couleurs. Mais ce projet a été financé conjointement par IBM et Toshiba au Japon. Et quand les Japonais se sont mis à fabriquer, sur 100 fabriqués, il y en avait que 2 valables. On jetait 98. Après, on jetait 80. Après, on jetait 60. Maintenant, on en est à jeter 20. Aucun laboratoire américain, aucune école américaine, aucun ingénieur, aucune fabrique, aucune usine n'est capable de reproduire les conditions dans lesquelles sont faits ces faits. Parce qu'il suffit d'un quart de micron de poussière là où vous travaillez pour que l'écran soit foutu pour le jeter. Parce que dans cet écran-là, chaque point que vous voyez est un petit condensateur ou un petit transistor ou une puce qui est là, pour un par point. C'est un travail d'une précision. Et les Américains ont abandonné le brevet commun à IBM et Toshiba. Mais on les fabrique qu'au Japon parce que les Américains ne sont pas en mesure, ils le reconnaissent eux-mêmes, technologiquement. Et parce qu'ils n'ont pas peut-être le système de valeurs qui lui pousse à cette phase du détail de la miniaturisation qui est rentré comme un système de valeurs. C'est pour ça que j'insiste sur les valeurs. Alors, voilà l'exemple, quand j'ai parlé, si vous voulez, de cet aspect culturel. Je suis personnellement extrêmement optimiste sur l'avenir quand j'ai parlé sur la guerre du Golfe. Et j'ai dit dans mon livre qui s'appelle « La première guerre civilisationnelle » aussi, si je me permets, les deux concepts que j'ai sortis, celle du post-colonial et de la guerre civilisationnelle. Brièvement, pour moi, c'était le post-colonialisme. Vous avez vécu la période coloniale. Elle est classique, elle est bien décrite depuis que Moon a écrit en 1924 le livre sur l'impérialisme et toutes les écoles qui ont suivi, qu'elles soient marxistes, libérales, on sait plus ou moins ce que veut dire l'impérialisme et le colonialisme. Vous allez, vous prenez des matières premières, vous les exploitez, vous avez votre commerce et ainsi de suite. Et après, on a eu la période qu'on appelle néocoloniale, c'est-à-dire vous êtes allé à une belle station d'eau, d'ailleurs proche de Suisse, que ce soit à Lisbonne ou à Évian, vous signez un accord, et puis trois minutes après, vous êtes indépendant. Ça y est, on a signé un accord. L'indépendance économique, vous pouvez par une signature dire ça y est, je nationalise le pétrole, je nationalise le phosphate, tout ce que vous voulez. Mais cette véritable indépendance politique et culturelle, ce n'est pas un acte qui se produit ipso facto. Et donc on a vécu la période néocoloniale où on respectait la forme, vous étiez indépendant, vous avez votre compagnie aérienne, vous avez votre drapeau, vous avez votre représentant aux Nations Unies, votre chef d'État se balade dans une grosse voiture, enfin vous avez toutes les apparences de la souveraineté. Mais en réalité, vous êtes encore plus lié économiquement, militairement, etc. avec l'ancien colonisateur. Mais au moins on respectait la forme. Il y avait des troupes, elles étaient sous un accord spécial, le président de la République avait le droit à des gardes spéciales qui étaient là, même si c'était les plus grands tyrans. En même temps, on parlait un langage à la bonne des droits de l'homme et la démocratie, mais quand Madagascar a essayé de bouger, les gens qui protégeaient là, vous faites poigner, j'espère qu'il fera moins un procès, ça fait 3 mois qu'il dirige la Côte d'Ivoire à partir de Paris. Mais bon, c'est très bien, parce que c'est ce qui se passe sur le campus. Alors, si vous voulez, ces transformations-là, moi quand j'en parle, en disant, voilà le néocolonial, on l'avait vu. Mais maintenant, c'est encore mieux. Le postcolonial, c'est deux choses. C'est que d'abord, vous avez une puissance qui elle-même, à un moment, a été colonisée. Les États-Unis, même s'ils sont responsables de peut-être le plus grand génocide de l'histoire, c'est-à-dire 12 à 14 à 16 millions d'Indiens, qu'ils ont complètement tués pour avoir ce type de culture, pour pouvoir s'approprier un pays qu'ils ont volé. Même si on appelle ça la découverte, et même si on est en train de célébrer aujourd'hui la manifestation qui s'est passée en 1492. Bon. Alors, maintenant vous avez une ancienne puissance colonisée, qui elle-même devient le colonisateur principal, mais il y a mieux. Pour la colonisation, on a besoin d'envoyer des troupes. En Algérie, jusqu'à l'indépendance, il y avait 700 000 à 800 000 soldats.
Il fallait investir, il fallait voter des budgets spéciaux à l'Assemblée, il fallait avoir tout un système de renseignement, il fallait. Ben aujourd'hui, rien que ça. Aujourd'hui, non seulement vous allez occuper des pays, vous vous arrangez à que vous soyez invité, et en fin de compte, vous faites un bénéfice. La guerre du Golfe, sur le plan matériel seul, a dû coûter entre 130 et 140 milliards de dollars. Je ne passe pas des dégâts de ce qui s'est passé. Là-dessus, il y a eu un fonds, soi-disant de solidarité, dont la comptabilité n'a pas encore été remise vraiment aux contribuables, c'est-à-dire aux pays arabes, au Japon et à l'Allemagne. Et là-dessus, le minimum qu'on estime, c'est que les États-Unis ont fait un gain de 12 milliards de dollars. Le post-colonialisme, c'est que d'abord vous allez communiquer un pays, vous le prenez, c'est lui qui vous invite, et il finance lui-même sa propre occupation. Et chez nous qui n'avons pas les 400 dollars, nous avons quelque chose d'autre. C'est que ce n'est que maintenant que le colonialisme commence à tirer ses fruits. Parce qu'il y a une première génération qui est maintenant au pouvoir, qui a été formée pendant le colonialisme, et qui sont ce que j'appelle des mercenaires inconscients.
Et qui vont
tout le tiers-monde, et notamment toute l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle en Algérie « Esbranza », c'est des porte-paroles d'une certaine conception culturelle française, que ce soit les droits de l'homme, les droits de ceci, les droits de cela, parce que c'est des gens qui sont mal dans leur peau. La preuve, c'est qu'ils ne peuvent pas les mettre quelque chose. Ils ont besoin de l'écrire dans Libération, ou dans Le Nouvel Observateur, ou de passer du matin au soir à TV5. Parce qu'on les publie, parce que ce sont des mercenaires qui, inconsciemment, ou auxquels on donne des prix Congo, si vous voulez que je sois encore plus précis, qu'on achète d'une manière ou d'une autre. Bon. Alors, ces gens-là sont la première production. Et je finis avec une question du mot, qui est vrai. En 1954, au Maroc, bon, Mohamed V était exilé, peu importe, et le résident général français était en visite à Meknès, une ville où est né Michel Jobert. Et un sage, un gentil de 70-75 ans, barbe blanche, qui est toujours dans un coin, qui fait cette prière, qui ne bouge jamais, se met un verre et va voir, et dit, je veux voir le résident général. Je vous assure, c'est une histoire vraie qui m'a été racontée sur place. Qu'est-ce que vous voulez voir le résident général? Je veux voir le résident général. On lui dit, c'est pas un violent, c'est pas un terroriste, c'est un homme, bon, des plus calmes. Il dit, je veux voir le résident général seul. Je n'accepte pas les interprètes d'ici, de cela. Et finalement, il voit le résident général et lui dit, monsieur général, je suis venu vous demander de partir.
Quoi?
De partir. Mais pourquoi? Je vous assure que ne vous en faites pas. Vous avez produit, vous avez semé ici, pendant un temps à venir, une génération qui va monter, qui va défendre vos intérêts mieux que vous-même. C'est déjà fait. Allez, vous n'avez pas besoin de vos armées, vous avez fait des Français meilleurs, etc. Et c'est vrai. Cette génération qui a 35 ans et plus, et je le vois au niveau de l'université, il y a plus de 25 ans que j'enseigne, et je vois le changement des structures qui a à faire avec les valeurs, c'est d'ailleurs valable en Afrique, le reste de l'Afrique, c'est valable en Amérique latine, c'est valable en Asie, et grâce à la pyramidage, vous avez les gens qui sont en dessous des 35 ans, c'est-à-dire qui, eux, n'ont pas vécu, qui, le jour de l'indépendance, ou bien venaient d'être nés, ou n'avaient que 4 ou 5 ans, et pour lequel, vous savez leur dire, vous savez, la résistance, la libération, on a eu tant de héros, moi j'ai fait ceci, comme en France, en 68, les jeunes avaient marre de voir les films de la résistance et qu'on leur parle du maquis, et bien, vous avez maintenant cette création, après 30 années d'indépendance, la génération qui a moins de 30 ans a tout à fait un autre système de valeurs. Et je dis à l'Occident, je suis le dernier des Mohicans, on vivra le dernier Mohicans. Parce que moi j'ai passé ma vie, je suis allé à l'âge de 15 ans aux États-Unis, j'ai dû apprendre tout, la démocratie jeffersonienne, j'ai dû apprendre par cœur le Federalist, j'ai dû pouvoir citer Give Me Liberty ou Give Me Death, j'ai dû apprendre la musique américaine en partant du jazz et des blues et comprendre, jusqu'à la musique la plus contemporaine et les ballets de la City. J'ai dû comprendre même les vins californiens, le langage, la cuisine des États, mais pourquoi? Je puisse arriver, quand je suis arrivé, quand le Stevenson faisait candidature, j'ai pu faire inclure une petite phrase dans la plateforme du Parti démocratique en 1954 qui mettait en question l'aide du NATO à la France alors qu'elle occupait les pays. Bon. On a fait la même chose au niveau de la France. Le dernier d'entre nous ici qui a fait l'étude en France vous citera fleuve par fleuve, comté par comté, vous dira ce que sont les spécialités strasbourgeoises, toulousaines, vous parlera de la musique, tout bon. Et on fait la même chose, je vais faire, j'ai fait 3 ans de russe, parce que j'ai appris le russe, j'ai passé 4 ans en Angleterre, j'ai fait ça. Puis on arrive à moi, je dis, mais mince, vous n'allez pas faire un pas dans ma direction? Bon, moi j'avais besoin de faire ça, et je crois dans la communication culturelle. Mais la grande rupture, le grand danger dans le problème dans le Sud, c'est que l'arrogance de l'ethnocentrisme occidental, judéo-chrétien, a atteint des degrés intenables. Et les jeunes, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, athées, incas,
flotte fellow, make a step in the other direction. Jusqu'à quand, moi, je vais aller. It takes two to tango. Vous voulez que je danse seul? Moi, j'étais constamment à la recherche. Ce n'était que les étudiants que j'ai, qui ont moins de 30 ans, qui font leur DS, qui sont en faculté, même les autres de médecine, de sciences, de technologie, aller leur donner des labels faciles que leur donnent les mercenaires, qui eux ne peuvent pas s'insérer dans leur vie, qui les appellent des intégrés, des fondamentalistes. Même c'est vrai, alors, il y a 90% qui sont intégrés. Eh bien, très bien, s'il y a 90% qui sont intégrés, c'est la majorité du pays déterminée au travers d'un bulletin de vote. Et ne le dites pas en appuyant, moi j'arrête la démocratie parce que en arrêtant la démocratie, je sauve la démocratie. Mais quelle logique ! Et que des hommes comme, comment il s'appelle, le grand soi-disant spécialiste du développement qui a sous-développé des clubs chez eux, viennent et me disent clairement, mais c'est ça la victoire, mais quel droit, monsieur Chesson, vous qui vous êtes tout, vous venez là, vous avez succédé à Edgar Thorpe qui était un vrai défenseur des droits de l'homme, et là on vous a voulu vous mettre dans une case, on vous a mis dans cette arche pour vous occuper des droits de l'homme, mais qu'est-ce que c'est ? Quelle crédibilité vous voulez maintenir ? Cet affolement de ce qui se passe par les médias. Mais finalement, ça se retourne contre qui ? On a un dicton qui est très facile, qui dit « Celui qui trouve, creuse un trou, tombe dedans. » Celui qui amène un bateau, un bâton, est frappé avec.
C'est un débat parce que c'est une telle richesse et une telle extraordinaire provocation intellectuelle au sens où les forces de l'intelligence sont mobilisées chez l'auditeur. Mais comment on va procéder ? Est-ce que peut-être d'abord on va faire un